Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 1172, en ce samedi 10 décembre. J'espère que tout le monde va bien. Dans ce 1172e numéro de Sweet Home Chicago, nous explorerons, comme chaque semaine, de nombreuses facettes musicales de cette magnifique musique qu'est le blues. Avec à l'honneur cette semaine, un voyage dans le sud-ouest de la France avec le funk soul blues de Miss B and the Bullfrogs et l'interview de leur chanteuse Maëlys Bay, ainsi que le blues hard rock de Red Beans and Pepper Sauce et l'interview de leur guitariste Laurent Galichon. En première heure, on poursuivra l'exploration de The Blues Don't Lie du grand Buddy Guy. On écoutera également le 17e volet des Beatles Song Story par Jackie Emery avec le titre Goodnight, qui figure dans le double blanc de 1968, un album qui sera encore autopsié d'ailleurs durant les deux prochains volets. Et nous écouterons une belle reprise signée Linda Ronstadt en 1996. Nous aurons également le plaisir de découvrir le nouvel album très jazz de la sensible Justine Blue et nous prendrons quelques nouvelles de Red Beans and Pepper Sauce, groupe basé à Montpellier, avec l'interview de leur guitariste Laurent Galichon qui évoquera pour nous Seven, qui est en fait le 7e album du groupe sorti cet automne. C'est en deuxième heure que nous nous déplacerons à quelques 435 km à l'ouest de Montpellier, dans la cité d'Henri IV, en plein Béarn, à Pau. C'est également le berceau de Nico Wayne Toussaint et des Super Soul Brothers que nous écouterons, mais nous consacrerons surtout cette deuxième heure à la découverte du premier album de Miss B and the Bullfrogs, qui s'appelle Summer Solstice. On aura droit à 6 extraits pour émailler la passionnante et très complète interview que leur chanteuse saxophoniste Maëlys Bay vient d'accorder à Sweet Home Chicago. L'occasion de parler ensemble de la foisonnante scène paloise, du regretté Jacques Morgantini, du vidéaste multitalent Jacques Gasser, du guitariste extraterrestre Michel Foison, de la belle chanteuse Gladys Amoros, de l'extraordinaire Nico Wayne Toussaint et des super, super Soul Brothers. Mais aussi la possibilité de souligner le beau palmarès de cette toujours jeune formation, Miss B and the Bullfrogs, qui a déjà remporté le tremplin des rendez-vous de l'herbe en 2019, le prix Cognac Blues Passion, puis le Challenge Blues français en 2022, et qui va défendre les couleurs de France Blues au niveau européen du 1er au 3 juin 2023 à Chorzów en Pologne, lors du 11e European Blues Challenge, un groupe à suivre. Allez, on démarre tout de suite avec Mr. Buddy Guy, s'il vous plaît, avec Elvis Costello, un titre qu'ils partagent tous les deux à travers cet album superbe The Blues Don't Lie. Ça s'appelle Symptoms of Love, Buddy Guy. We'll be right back. avec la complicité de son invité Elvis Costello. I Got Symptoms of Love par Buddy Guy, extrait de son album Silvertone qui vient de sortir et qui est intitulé The Blues Don't Lie, qui est également le disque du mois pour Sweet Home Chicago. On poursuit avec l'interview de Laurent Galichon, capté début juillet au premier Mojo Effect Festival à l'occasion de la venue de Red Beans and Pepper Sauce dans ce festival. Et voici donc cette interview émaillée de quelques extraits de leur album qui est sorti depuis. Galichon, bonjour.
Bonjour.
Ça fait quelques mois, voire peut-être quelques années, je ne sais plus. En tout cas, Red Beans and Pepper Sauce, ça fait un petit moment qu'on te suit sur Sweet Home Chicago. Et là, on parlait hors antenne tout à l'heure, pendant ce festival Mojo Effect, là où vous allez vous produire ce soir. On parlait actu et surtout prochain album. Alors, d'habitude, il y a un album tous les deux ans, ça fait un moment que ça dure. Et là, ben, comme tout le monde, comme tous les groupes, vous avez subi la crise sanitaire, c'était compliqué. Est-ce que ça a affecté votre capital création, votre capital artistique et créatif?
Oui.
Quand je dis votre, voilà, tout le groupe, et puis
tout le groupe travaille. Bon, on a tous vécu différemment le confinement, le fait d'être sans activité, en fait, ça démotive un petit peu. Donc on savait qu'il faudrait faire un album tôt ou tard, et puis quand les choses ont semblé reprendre au début de l'année 2022, on s'est dit, bon, maintenant, il faut en faire un, mais on était un petit peu en retard. Alors, bon, on fait toujours des enregistrements, on garde des choses sur les disques durs, il y avait de la matière pour travailler, mais il fallait quand même qu'on se voit, qu'on discute, qu'on se dise qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on a un projet ou juste on refait un album de plus comme d'habitude. Donc il a fallu ça, un peu quelques discussions, et puis on s'y est remis, et le fait que les concerts soient de retour, ça a aidé à la motivation, quoi, de retrouver le public, parce que sinon quand t'es tout seul à la maison, pendant le confinement on a fait comme tout le monde, on a fait des vidéos, les fameux live avec pas de public. J'espère pas qu'on soit obligé de refaire ça, c'était pas super en fait.
Le dernier album, Mécanique par Malade, avait obtenu un bon accueil au niveau des critiques. Et là, il y a un nouveau disque qui est en préparation, qui est en gestation. Est-ce que il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau du son, au niveau des arrangements? Est-ce qu'il va y avoir une évolution différente cette fois-ci?
Bah, en fait, on suit une évolution maintenant depuis 3-4 albums où on a quitté un petit peu le blues rock des débuts. On faisait des trucs swing et tout, ça devient de plus en plus rock. Et on continue sur ça parce que ça nous plaît bien en fait. Et puis on voit que l'accueil sur scène est bon sur ça, sur les morceaux très rock. Et comme nous on kiffe ça, c'est nos influences, les influences des années 70. Donc on a dit on va continuer sur ça. Et d'ailleurs ça a fait partie de notre réflexion. Donc on a eu tous ensemble en disant qu'est-ce qu'on fait, quel est le nouveau projet du truc. Et on voulait rester très rock 70s. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de partir enregistrer une partie de l'album dans un studio qui avait un rapport direct avec cette histoire-là du rock, le fameux Rockfield Studio au Pays de Galles.
Au Pays de Galles. Ouais. Pourquoi le Pays de Galles particulièrement? Parce que le son du studio, parce que les gens qui y travaillaient, parce que les artistes qui y ont enregistré précédemment?
Il y a plusieurs choses. Au tout début, quand on a dit il faut qu'on essaye de se trouver comme ça un endroit pour aller on est capable de faire les albums nous-mêmes dans notre propre home studio. On n'a pas vraiment besoin d'aller dans un studio, mais on fait ça depuis 3 albums, et donc l'idée c'était de changer un petit peu et de confronter notre son qui est maintenant bien établi, le confronter à notre environnement. C'était le début de notre réflexion, et on s'est dit où on va, qu'est-ce qu'on fait. Et donc on a commencé à réfléchir, à chercher, et moi le Pays de Galles m'a tiré parce que j'avais en mémoire cette histoire le fameux album Led Zepp 3, quand à force de tourner, Page et Plant ont décidé de se poser, d'écrire un album en se posant, de ne plus être en tournée. Et ils sont allés dans une ferme de la famille de Robert Plant, pas très loin du Rockfield Studio. Au Pays de Galles, ils se sont posés. C'est comme ça qu'ils ont commencé à faire des morceaux acoustiques, ce qui donne sa particularité au Led Zepp 3. Et donc, moi, j'ai dit, ouais, c'est bien. Ça. Je trouvais ça l'idée bien de se retirer, d'aller ailleurs, dans un autre pays. Et il se trouve qu'au même moment où on avait cette réflexion, on ne savait pas encore où aller, est arrivé sur Arte le reportage « Le rock est dans le pré ». C'était tout un reportage sur ce studio que moi personnellement je ne connaissais pas, et je l'ai découvert comme ça, le Rockfield Studio, et j'ai vu cette histoire de ces agriculteurs qui avaient monté dans les années 60 un studio en pleine cambrouse, où Queen a, c'est pas n'importe qui était là-bas, Queen a enregistré son Bohemian Rhapsody, c'est pas rien, Oasis a enregistré l'album où il y a Wonderwall, Black Sabbath est allé enregistrer là-bas pendant 2 ans, si j'ai bien compris le reportage, ils ont eu des petits problèmes de drogue. Et Coldplay plus tard y est allé, Motorhead, enfin c'est. Et donc on s'est dit c'est vachement intéressant d'aller comme ça dans un studio qui a une histoire, qui fait partie de l'histoire du rock, et surtout qui est vraiment fait partie de la musique que nous on aime. On va sûrement y trouver quelque chose au niveau du son. Et effectivement, une fois qu'on s'est retrouvé là-bas, de suite, dès qu'on a commencé à brancher les trucs, la table, la console Nive de 72 qui chauffe autant qu'une baraque à frites. Et puis les préamplis, les 1176 Universal Audio, on s'est dit ouais, on a fait le bon choix. Plus leur chambre d'écho, c'est un truc de dingue ça, leur chambre d'écho, des pièces entières dédiées à la réverbération, on s'est dit ouais, on a bien fait de venir.
Et tout cet univers-là, donc, qui va transparaître dans le prochain album, est-ce que le titre de l'album est déjà choisi?
Oui, on l'a dévoilé l'autre jour avec la vidéo EPK qu'on a sortie. C'est le 7e album, on l'a appelé 7.
7, tout simplement.
Voilà, ça faisait longtemps que je voulais appeler un album par le son et le chiffre, et c'est tombé sur celui-là.
Voilà, comme 1, 2, 3, 4 pour les Zepp, et puis
ça vient sûrement
voilà,
de là.
Par exemple,
ouais. Ça vient sûrement de là. Ouais, mais voilà, j'avais envie, puis j'aimais bien le chiffre 7, ça me plaisait bien, je trouvais que c'était une bonne idée. We'll be right back.
won't get fooled again. I'm looking for
ce soir, c'est ta première venue avec le groupe dans ce festival qui démarre, bien sûr. Tous les groupes viennent ici pour la première fois. Quel effet ça te fait d'arriver dans ce bois des fées, là, au milieu des arbres, dans la fraîcheur du nord? Parce qu'ici, on est dans le nord pour toi.
Il fait un peu plus frais que chez nous, mais c'est. La France, quand même, c'est un pays qui se ressemble. C'est, moi, j'ai l'impression d'être en Ardèche, c'est exactement pareil que vers chez nous. Mais je trouve que l'endroit porte bien son nom, le bois des fées. On a vraiment l'impression d'être perdu comme ça dans une forêt. On ne sait pas trop ce qui va se passer, donc la lumière du jour commence à baisser. Je ne sais pas si on va peut-être se paumer dans la forêt, je ne sais pas si on va arriver jusqu'à la scène. J'aime beaucoup l'idée, ouais.
Laurent, un petit message pour les festivaliers de ce soir et puis également pour les auditeurs de Sweet Home Chicago qui voudraient découvrir ta musique. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller?
Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur... On a aussi une chaîne YouTube avec plein de clips. On fait beaucoup de clips, c'est une des particularités du groupe. On aime ça, on aime faire ça. On aime produire beaucoup de clips. On a appris à le faire avec le temps. Donc il y a beaucoup de clips vidéo live aussi sur notre chaîne. Et tout ça est mis à disposition du public. Évidemment, on est aussi sur les plateformes de streaming, mais pas trop. On préfère avoir... On trouve qu'on est plus libre sur YouTube et sur Facebook. On fait ce qu'on veut. que les plateformes, c'est un petit peu limité. On a un site, évidemment. Et donc, rejoignez-nous, venez découvrir la musique, venez écouter la musique, venez voir les clips. Et puis, pour les gens, ce soir, on a un guide monté sur scène. En plus, on va jouer un petit peu tard, donc c'est cool. Il y aura plus de lumière du jour, ça sera vraiment la nuit. Peut-être qu'il y aura l'effet.
Peut-être.
On ne sait pas.
Red Beats and Pepperso, c'est un groupe qui est toujours à la limite entre le blues et le rock, et ça, moi, je trouve que ça vous va très bien. Vous jouez les étiquettes, en fait. Ça sera la dernière remarque. C'est pas vraiment une question, d'ailleurs. C'est un constat. Moi, j'ai l'impression que les labels, les étiquettes, les choses posées, ça vous intéresse pas trop.
Non, oui. Je trouve ça un petit peu...
Salutaire, peut-être.
C'est trop tard, maintenant, c'est fini. On a tous derrière nous combien de décennies de musique pop, rock. Tout ce mélange, dans le groupe, on est tous autant influencés finalement par le rock anglais, qui lui-même vient du blues américain, que par la musique afro-américaine, qu'on va dire plus soul, funky. On aime autant la Stax, la Motown, que les Anglais qui sortaient chez Atlantic. Enfin, tout ça se mélange, donc aujourd'hui, poser des étiquettes, c'est compliqué.
Pourquoi choisir ?
On a vécu les années 90 avec l'arrivée du mélange hip-hop et rock chez Rage Against the Machine et compagnie, l'arrivée du grunge. Il y a trop d'histoires pour se dire maintenant on va faire tel truc avec tel cahier des charges très précis, on va faire du... Ah non, c'est trop compliqué ça. Ça n'a plus...
L'essentiel c'est de faire plaisir au public.
Ben, c'est ça. À partir du moment où les gens, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, bon, on sait qu'on est sur le bon chemin. Pas forcément le grand public, on remplit pas les stades, tu vois, mais à partir du moment où les gens qui sont devant la scène, ils ont l'air de kiffer le truc, bon, on sait qu'on a bon.
Très bien, alors quand l'album 7 sort, n'hésite pas à m'en envoyer un exemplaire et puis on partage avec les auditeurs,
avec grand plaisir.
Merci Laurent.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
I can't for you.
Merci à Laurent Galichon avec cette interview au Mojo Effect Festival. On a pu écouter Gonna Dance, Going Blind et Let You Down, trois titres qui figurent sur leur tout nouvel album Red Beans and Pepper Sauce qui s'appelle Seven, sorti à l'automne dernier. On continue avec un petit peu de jazz, tiens pourquoi pas. Voici Justin Blue, en tout cas c'est très jazzy. L'album s'appelle True et voici What Am I To Do, Justin Blue.
By the eyes you gave to me.
L'album s'appelle Vrai, autrement dit True, il est signé Justin Blue. Et ce ne sera pas du tout la seule voix féminine dans cette émission, puisque tout à l'heure on a entendu Jessica Ake avec Red Beans and Pepper Sauce. Dans la rubrique Beatles, il y aura une reprise de Lydna Rolstadt. Et puis surtout, en deuxième heure, ce sera Maëlys B, l'invitée au sein du groupe Miss B and the Bullfrogs. Voici les Beatles, voici le 17e volet avec ce titre Good Night par Jackie Emery. Beatles Song Story numéro 17. Salut Jackie, tu vas bien ?
Bonjour Marco.
La forme ?
Ah oui, oui, très bien. Très bien. Un peu enrhumé comme tout le monde.
C'est l'entrée de l'hiver, hein, qu'est-ce que tu veux ?
Ouais, voilà.
Je pense que pour ces prochaines sessions, j'ai l'impression que tu nous as concocté un spécial double blanc, je ne sais pas si...
Oui, voilà, ce que je te propose, c'est que pour cette émission et les deux suivantes, on fasse une petite immersion dans l'album The Beatles. Je pense que nous avons déjà évoqué dans des émissions antérieures quelques chansons qui font partie de cet album. Je pense qu'on a dû parler d'Helter Skelter, de... Blackbird. Mmh. Donc voilà, mais là, cette fois-ci, je voudrais que les trois émissions qui arrivent, y compris celle-ci, on fasse un petit voyage comme ça dans ce double blanc qui est un album quand même assez rare.
Tu nous disais dans une émission précédente que ton album préféré à toi, c'était plutôt Revolver, sachant que le double blanc, c'est peut-être le préféré de John Lennon.
Oui, John Lennon dit qu'il préfère le double blanc aux autres albums. Quelquefois, il y a eu des propos un petit peu différents dans d'autres temps, mais.
Est-ce que c'est par le fait que Yoko s'est beaucoup investi dans celui-là particulièrement ou pas du tout ?
Oui, probablement. Puis aussi, c'est ce que nous disons, mais je vais essayer de remettre quelques pendules à l'heure.
Bien sûr.
On pense souvent à cet album The Beatles comme étant un peu l'album individuel de chaque musicien des Beatles, tu vois. On pense que leur carrière solo commence un peu ici. C'est pas tout à fait exact quand même. Il y a des petites choses qui nous empêchent de penser cela. Je pense par exemple quand on dit que sur l'album blanc, telle ou telle chanson est purement une chanson de Paul McCartney ou celle de Lennon, complètement. C'est vrai qu'il est arrivé que certaines chansons soient enregistrées sans l'appui des autres musiciens. Et surtout qu'on sait que la période d'enregistrement de l'album blanc est une période très difficile pour les Beatles, hein, puisque c'est une fin annoncé, mais pas encore formalisé. Elle le sera avec Abbey Road, ce qui donnera un résultat bien meilleur d'ailleurs, en fait, en termes de cohésion du groupe surtout.
Ouais. Et de créativité peut-être aussi, non ? Non.
Oui, ça je ne saurais dire parce qu'on est toujours un peu surpris avec les Beatles.
On n'est pas dans les mêmes univers avec ces deux albums précisément. Hein. C'est vrai que, puis même avec Let It Be, enfin c'est encore autre chose. Le double blanc, il y a aussi de la musique un peu expérimentale.
Oui, c'est ce que je vais tenter d'expliquer dans cette émission et dans cette série d'émissions, les trois émissions sur le double blanc, parce qu'effectivement c'est un album qui est enregistré dans un contexte assez particulier pour les Beatles. Et puis pour en revenir à l'apport de chaque musicien avec chaque chanson, je pense par exemple à une chanson qu'on a évoqué ici, dont on a fait une émission, qui s'appelle Anna Lover.
C'était la toute première, je crois bien.
Je pense que c'était la première, voilà. Eh bien, si tu prends cette chanson, effectivement, tu pourrais considérer que c'est la chanson de Paul McCartney, évidemment, comme d'autres chansons seront celles de Lennon ou même celles d'Harrison. Néanmoins, par exemple, dans Anna Lover, la petite intro que va proposer George Harrison va donner toute la couleur au morceau. Et c'est juste la petite intro. Donc en fait, il y a toujours une petite participation qui arrive. Ça va être un morceau du texte, ça va être un riff, ça va être un pont, une série d'accords, un tempo. Même Ringo Starr participe aussi de cela.
C'est ce qu'on appelle un travail du groupe. En fait.
Voilà. Et d'ailleurs, dans le double blanc, il y a des moments où le groupe va retrouver toute sa cohésion.
Alors, quel est le titre que tu as sélectionné pour cette 17e émission, Jackie ?
Alors, le choix fut cornélien pour essayer de comprendre cet album, de mettre des chansons de cet album. Donc j'ai essayé de prendre trois chansons qui me semblaient correspondre tout à fait à l'éclectisme de cet album. Et pour la première, j'ai choisi la chanson Good Night, qui est la chanson d'ailleurs qui ferme l'album. Hein. Mmh. Une chanson qui a été enregistrée le 28 juin, le 2 juillet et le 22 juillet 1968 au studio d'Abbey Road, comme d'habitude.
Et c'est la 30e, parce qu'il y a un double album, mais c'est pas 12 chansons comme certains font des morceaux à rallonge. Il y a 30 chansons, quoi.
Absolument, hein, voilà.
C'est énorme.
Alors, Pour te parler du double blanc, je pense qu'à d'abord, il faut quand même essayer de le poser un petit peu. Donc, alors en fait, selon les dialectes, cet album s'appelle The Beatles. Ça, c'est son titre officiel de l'album. Mais on l'appelle aussi double blanc ou le White Album, hein, selon les dialectes. Voilà. Les Beatles nous balancent un pavé, comme il n'en a pas volé deux comme ça en 1968. Hein. C'est une sorte d'album à quatre faces, hein, mais avec de multiples facettes. Tu vois. 30 chansons avec un éventail d'orchestration, d'humeur, de thèmes, comme aucun album de rock n'avait jamais été réalisé jusqu'à là. Hein. Je pense qu'il faudra attendre l'arrivée de l'album des Clash, Sandinista,
ah ouais.
qui fera à peu près la même chose, où il y aura aussi beaucoup de choses de dites sur cet album, parce que évidemment le double blanc a été l'objet aussi de beaucoup de discussions. Hein.
C'est amusant, faudrait que je réécoute ça justement. Tiens.
Ah ouais. Ouais. Donc à ce moment-là, donc en 68, les Beatles nous proposent un album, le plus grand groupe du monde nous propose le plus grand album en termes en tout cas de quantité. Hein. On pourra dire que quelquefois le résultat sera plutôt, moi je trouve, génial, fantastique. Mais il est quand même quelquefois déroutant
oui,
pour
ne
pas dire déconcertant.
Oui. Voilà. À cause du psychédélisme, parfois.
Peut-être, oui. Et puis aussi certaines petites chansons qui sont étonnantes. Oui. On dira ça comme ça. Avec Rubber Soul en 65, Revolver en 66 et le chef-d'œuvre absolu en 67, Sgt. Pepper's, les Fab Four sont au sommet. Absolument. Et au sommet à la fois des charts, hein, et aussi des critiques. Hein. C'est-à-dire que les critiques sont toujours absolument dithyrambiques. Et là, les Beatles, dans un contexte particulier, vous nous offrir un album relativement déroutant, qui serait un peu l'antithèse de Sgt. Pepper's, tu vois. Sgt. Pepper's était très coloré, le doublement est tout blanc, hein, avec juste écrit en relief The Beatles. Sgt. Pepper, son vrai titre, c'est Sgt. Pepper Only Love Club Bands, donc ça veut dire un titre à rallonge, comme on faisait les groupes californiens de l'époque, et l'album s'appelle The Beatles, de manière très minimaliste. Cet album aussi fera l'objet de beaucoup d'enregistrements très acoustiques. Hein. Et donc, on sortira de la technologie utilisée de manière assez intensive dans l'album Sgt. Pepper's. D'accord. Alors, pour remettre le contexte, il faut penser d'abord à Patty Harrison, hein, qui encourage George et les autres Beatles à se rendre à Bangor, au Pays de Galles, pour faire un séminaire sur la méditation transcendantale réalisé sous la houlette du Maharishi Mahesh Yogi. C'est donc ce fameux gourou qui, plus tard, pour quelques temps plus tard, les Beatles vont le rejoindre en Inde, avec d'autres artistes d'ailleurs. Et c'est pendant toute cette période que va être conçue la majorité des chansons qui sont sur l'album Double Blanc. Les Beatles, je te disais, sont un tournant, je ne sais pas qu'à dire. En tout cas, ils sont dans une ambiance assez exceptionnelle. D'abord, quand ils sont au Pays de Galles, c'est là qu'ils apprennent la mort de Brian Epstein, hein, qui était leur manager depuis 1962, qui était un petit peu leur papa quand même. Hein. Et donc, c'est aussi une époque où John s'adonne assez régulièrement à la drogue. C'est l'époque où il est avec Yoko Ono et c'est l'époque de l'échec de son mariage aussi. Il en va de même aussi pour Paul McCartney. Et puis, bien sûr, il règne au sein du groupe les tensions que l'on connaît, que l'on a vu apparaître notamment dans le film Get Back, pour ceux qui l'ont vu. Mmh. Voilà. Donc ensuite, les Beatles vont aller faire leur petit voyage en Inde. Et ça aura plutôt un côté intéressant pour eux, parce que quand même, ils vivent depuis plusieurs années un rythme infernal. Et il se trouve qu'arrivés en Inde, ils vont pouvoir avoir le temps de réfléchir, de méditer.
Est-ce qu'ils sont connus et reconnus là-bas?
Alors en Inde, non, ils ne sont pas connus. Par
contre, j'imaginais que j'étais internationalement connu, donc ici aussi, mais non, pas forcément.
Oui, je pense qu'ils sont certainement un peu connus, mais ça n'a pas l'impact qu'il pouvait y avoir aux États-Unis ou évidemment en Europe. Ouais. Ça, c'est évident. Par contre, ce fameux Maharishi, là, qui va s'avérer quand même être un type un peu bizarre, qui va plutôt un peu profiter des Beatles pour se faire de la pub, hein, et puis qui va avoir quelques petits problèmes aussi de comportement, notamment avec la jambe féminine. Hein, ce qui, d'ailleurs, donnera la chanson Sexy Sadie, hein, écrite par Lennon, qui règle ses comptes avec le Maharishi. Donc, quand ils reviennent de cette tournée dans l'Himalaya, ils annoncent qu'ils rentrent avec 30 chansons, dont la moitié, je te dis, seront sur l'album blanc, d'autres ne furent jamais enregistrées. Comme elles étaient composées pendant le voyage, on va trouver une base très acoustique dessus, puisqu'ils sont privés de guitare électrique et de clavier. John, d'ailleurs, déclarera plus tard qu'il était le premier album naturel des Beatles, hein, après la grande période que j'ai précitée tout à l'heure, à savoir Sgt. Pepper's, Revolver, hein, et puis Rubber Soul, on dira. Pour en venir maintenant à la chanson que j'ai choisie sur cet album, j'ai choisi Good Night. D'abord, Il y a une petite confusion que font souvent les gens qui écoutent cet album. Tout le monde pense que c'est une chanson de McCartney, ça lui correspond tellement. En vérité, c'est une chanson de John Lennon. Hein. Voilà. C'est une chanson qu'il avait composée pour son fils, pour lui faire une Sean Lennon.
Julian Lennon.
Ouais, Sean Lennon, il va composer une autre chanson pour lui qui s'appellera Beautiful Boy par la suite. Voilà. On pourrait penser que si c'était Paul qui avait composé cette chanson, pour reprendre l'expression de John Lennon, elle aurait bonne à être mise à la poubelle. Hein, parce que c'est une chanson vraiment très douce.
Donc j'imagine la richesse de la poubelle de John Lennon. tu t'imagines si on pouvait fouiller dans les papiers si ça n'avait pas été mis à la benne à l'époque.
Exactement.
Hein, incroyable.
Après, John Lennon était tout à fait capable, avec cette sensibilité que lui accorde McCartney d'ailleurs, pour écrire de magnifiques chansons douces comme ça. Et d'ailleurs, dans plusieurs chansons des Beatles, on se trompera. Pour deux raisons évidentes. La première, c'est qu'on accorde toujours une personnalité rock à Lennon et une personnalité plutôt chanson plutôt cool ou folk à McCartney. Et du coup, ils le savent tous les deux. Et ils s'amusent toujours à jouer dans la cour de l'autre.
Ouais. Hein,
histoire de se taquiner un peu. Parce que ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a eu une telle production chez les Beatles. C'est qu'on peut dire que, grosso modo, pendant toute l'existence des Beatles, Lennon et McCartney se sont tirés la bourre. Hein, voilà. Quand il arrive pour enregistrer cette chanson, John Lennon trouve que sa voix ne correspond pas. Et surtout, il a un peu peur que son image ne corresponde pas au regard de ce que je viens d'évoquer.
Et du coup, d'accord, c'est pas lui qui chante.
Absolument, il va confier la chanson à Ringo Starr.
Ringo Starr.
Voilà. Et donc, c'est Ringo Starr qui va la chanter. Et McCartney dit que quand il l'a vu, il l'a entendu chanter la chanson à Ringo Starr pour lui apprendre. Il a dit, en fait, il a chanté merveilleusement bien. Il était tout à fait fait pour ce genre de chanson.
Une voix un peu plus grave, en fait, par rapport à John Lennon.
Oui. Non, mais je pense que de toute façon, Lennon l'avait composé pour son fils, quoi. Donc, il avait le truc pour la chanter, j'ose imaginer. Puis, de toute façon, on a déjà entendu John Lennon chanter de chansons extrêmement douces et qui lui vont très, très bien. Alors, Good Night est enregistrée. Alors, c'est marrant parce que sur la piste, elle clôt l'album. Hein, et donc, elle arrive juste après ce fameux Révolution 9.
Oui, on en parlait l'autre jour, voilà. Avec plein de collages, avec l'intervention de Yoko. Enfin, voilà, un truc.
Alors, il faut aussi un petit peu parler, peut-être aussi, pour comprendre le blanc. C'est l'intervention de Yoko Ono dans cet album. D'abord, elle a une omniprésence. Elle est là pendant tous les enregistrements. Si tu écoutes, si tu te réfères au film Get Back, tu vois à un moment McCartney dire au fond, ils ont juste envie d'être ensemble, mais qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Mais eux qui avaient toujours travaillé que les quatre ensemble, sauf à faire venir quelques artistes qui participaient à leurs albums, ça les troublait un peu. Mais Yoko Ono était présente tout le temps, voire même on lui avait mis un plumard pour que passe la nuit s'il fallait. Et surtout, ce qui était peut-être plus important, c'est qu'elle donnait son avis sur beaucoup de chansons. Yoko Ono avait une vision des Beatles assez étonnante. C'était une artiste, une vraie artiste conceptuelle. Et sa vision des Beatles, je pense qu'elle les voyait un peu comme un groupe, à la limite un peu ringard, pour elle qui était si avant-gardiste, tu vois. À part Lennon, évidemment. Elle parlait toujours des Beatles comme un concept. D'ailleurs, elle ne disait jamais les Beatles, mais elle dit toujours Beatles. Beatles fait ci, Beatles va faire cela, Beatles devrait ceci. Ce qui énervait McCartney. Et les autres aussi, d'ailleurs, à part Lennon, bien entendu. Et donc, ça a joué. Dans les compositions qu'il y a sur le double blanc, je pense au morceau Julia, qui est la chanson sur sa maman, qui est la seule chanson que Lennon a fait en s'adressant directement et en parlant directement de sa mère, parce que dans d'autres chansons, il fait quelques allusions, mais là, dans Julia, il parle vraiment de sa maman. Mmh. Je ne me rappelle plus, je ne l'ai pas tout à fait en tête, mais je pense que c'est dans la deuxième phrase, il parle d'Ocean Child. Hein, et Ocean Child, c'est la traduction anglaise de Yoko Ono. Donc en fait, il y a une double détente dans cette chanson, ce qui prouve quand même que dans cet album, il y a vraiment une présence très forte de Yoko Ono. Alors sur Révolution 9, on dit même que c'est sa chanson à elle. Hein. D'ailleurs, en vérité, les autres ne souhaitaient pas, et McCartney en premier, que Révolution 9 soit sur l'album.
Oui, alors qu'en fait, il est crédité, ce titre est crédité, John Lennon et Yoko Ono. Hein.
Ouais. Et donc,
McCartney n'en voulait pas de ça.
Non, il n'en voulait pas, et puis, mais il dit, d'abord, John Lennon avait toujours le dernier mot, et puis en plus, Yoko Ono tenait particulièrement à ce que cette chanson soit sur l'album. Maintenant que l'histoire est écrite, on ne va pas s'en faire. Je trouve ça assez original que ce morceau soit sur cet album et qu'il finisse par cette chanson dont John Lennon nous dit Good Night, donc bonne nuit. Mm-hmm. Mais je pense qu'il nous parle d'une nuit blanche, probablement. Thank you.
Good Night par les Beatles dans double blanc. Et puis, Jackie, tu as choisi une cover avec une fille qui chante.
Oui, Linda Ronstadt, donc une artiste dont l'album Heart Like Will a été classé parmi les 50 meilleurs albums par le magazine Rolling Stone.
Ah, hein, ouais.
Qui a l'habitude de faire tous ces petits classements. Voilà. Linda Ronstadt a travaillé avec Emmylou Harris, Paul Simon, James Taylor, Elvis Costello, et excuse-moi du peu, avec Neil Young aussi. Hein. Donc, en 1996, elle sort un album qui s'appelle Dedicated to the One I Love, hein, dédié à celui que j'aime. Et sur la dernière chanson de cet album, c'est Good Night, la reprise de cette chanson des Beatles.
On écoute ça tout de suite. Merci, Jackie.
Now it's time to say good night. Sleep tight now.
C'était Good Night par les Beatles et par Linda Ronstadt. Voilà, on a puisé dans le double blanc. C'est ce qu'on fera également la prochaine fois, Jackie. Hein.
Absolument. Merci, Marco.
À bientôt. Salut, merci. Merci Jackie, on avait pu entendre Good Night par les Beatles en 1968, puis Linda Ronstadt reprise en 1996 dans son album Dedicated to the One I Love. On continue et on termine cette première heure du 1172e Sweet Home Chicago avec Buddy Guy et une autre voix féminine, Miss Mavis Staples, ça s'appelle We Go Back.
Cup of coffee cost a nickel, newspaper sold for a dime, a dollar bought a pack of smoke and a bottle of Mad Dog wine. We go back, yeah, when the blues was everywhere. We go back, fighting hard to get our share. Times were bad, what a time we had. We go back, way, way back.
On a balcony in Memphis, April 1968. I never will forget what happened on that date. We go back when the blues were everywhere. We go back fighting to get our share. Time for band, but what a time we had. We go back, way, way, way.
I can see it in my mind, I can still hear it in my ears, the crying and the dying, the hell it took to get us here.
We go back when the blues was everywhere. To get our share. when we go back.
We go back. We go way, way back.
Back to the hometown. Woo! Where my grandma was, lived in the Magruder home, right on Highway 61. We had such a hard time, oh, but we made it, we made it. We had faith in grace. We believed we could make it. And we need.
Take me back.
Back in the day. I remember when. Oh, yeah. Buddy, do you remember?
We go back.
We Go Back, Buddy Guy et Mavis Staples dans cet album The Blues Don't Lie, magnifique album de Buddy Guy, disque du mois pour décembre. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième heure avec Miss B and the Bullfrogs et notre invité Maëlys B.